Canal Sud 92.2, bonjour tout le monde. Dans ce contre-histoire, je vais d'abord vous poser une petite devinette, dont vous trouverez la réponse très vite, car cette histoire est très célèbre, et son personnage central si sympathique que je vais sûrement me trahir en cours de route et l'appeler par son nom, alors que je vous demande de le deviner. Son prénom universellement connu. Mais ça ne nous empêchera pas de découvrir les détails inconnus du pays et de l'histoire de notre héroïne, l'Afghanistan, et en particulier la région du Swat qui s'étend du Pakistan à l'Afghanistan. C'est le pays Pachtoun. Je lis cette histoire à la place de cette jeune fille. À ma naissance, les gens de notre village s'apitoyèrent sur ma mère et personne ne félicita mon père. Je suis arrivée au moment où la nuit laisse place au jour et où la dernière étoile s'éteint, ce qui, pour nous autres Pachtounes, est de bon augure. Mon père, n'ayant pas l'argent pour payer l'hôpital ou une sage-femme, c'est une voisine qui aida ma mère à accoucher. Et contrairement au premier enfant de mes parents qui se présenta mort-né, je sortis en me débattant et en poussant des cris. Mais j'étais une fille dans un pays où on tire au fusil pour fêter la naissance d'un garçon et où les filles sont cachées derrière un rideau, leur rôle se résumant à préparer la nourriture et à produire des enfants. Pour la plupart des Pachtounes, c'est donc un jour sinistre que celui où naît une fille. Le cousin de mon père, Jehan Sher Khan Yousafzai, fut l'un des rares à nous rendre visite quelques jours après ma naissance. Il offrit même une forte somme d'argent à mes parents en cadeau. En dépit de cela, il avait dessiné l'immense arbre généalogique de notre clan, les Dalorkel, remontant jusqu'à mon arrière-arrière-grand-père. Il n'avait tracé que la lignée masculine. Mon père, Ziaoudin, est différent de la majorité des Pachtounes. Il prit l'arbre et traça, à partir de son nom, une ligne en forme de sucette. À l'intérieur du cercle, il écrivit mon prénom, que vous allez pas tarder à trouver. Son cousin éclata de rire, stupéfait. Mon père s'en moquait. Il raconte qu'il me regarda dans les yeux à ma naissance et tomba amoureux. Il déclara à tout le monde « Je sais que cet enfant n'est pas comme les autres. » Il demanda même à mes amis de lancer des fruits secs, des bonbons et des pièces de monnaie dans mon berceau, coutume généralement réservée aux garçons. Je reçus mon prénom en hommage à la plus grande héroïne de l'Afghanistan. Nous autres Pachtounes, nous sommes un peuple fier, composé de nombreuses tribus, réparties entre le Pakistan et l'Afghanistan. Nous vivons ainsi que nous le faisons depuis des siècles, selon le code de Pachtounwali, qui nous oblige à offrir l'hospitalité à tous et où la valeur la plus importante est le nang, l'honneur. Le pire qui puisse arriver à un Pachtoun est de perdre la face. Le déshonneur est chose terrible. Nous avons l'habitude de dire « sans honneur, le monde ne vaut rien ». Nous nous battons tellement entre nous que nous employons le même mot « tarbour » pour dire « cousin » ou « ennemi ». Mais nous faisons toujours front commun contre les étrangers qui tentent de conquérir nos terres. Tous les enfants Pachtounes connaissent l'histoire de l'héroïne qui encouragea l'armée afghane à battre les troupes anglaises lors d'une des plus grandes batailles de la Deuxième Guerre anglo-afghane de 1880. C'était la fille d'un berger de Mewand, une petite ville des plaines poussiéreuses à l'ouest de Kandahar. Son père et son promis étaient parmi les milliers d'Afghans qui luttaient pour repousser les Britanniques. Cette jeune fille alla sur le champ de bataille avec les villageoises pour s'occuper des blessés et leur donner à boire. Elle vit que les hommes perdaient pied, et quand le porteur de drapeau tomba, elle brandit son voile blanc en guise d'étendard et marcha sur le champ de bataille devant les soldats. En scandant, « Si tu ne tombes pas dans la bataille de Mewand, par Allah, c'est que quelqu'un t'épargne pour être un symbole de la honte. » Elle fut atteinte par une balle et mourut. Mais ses paroles et sa bravoure inspirèrent les hommes à renverser le cours du destin. Ils anéantirent toute une brigade britannique. Ce fut l'une des pires défaites qu'essuya cette armée. Les Afghans furent si fiers de cette victoire que leur dernier souverain érigea un monument à la victoire de Mewand au centre de Kaboul. Quand je lus au lycée les aventures de Sherlock Holmes, je ris de voir qu'il s'agit de Mewand, la bataille au cours de laquelle le docteur Watson est blessé avant de devenir l'associé du célèbre détective. Cette héroïne, c'est la Jeanne d'Arc des Pachtounes. Beaucoup d'écoles afghanes portent son nom. Nous habitions dans le plus bel endroit du monde. Ma vallée, celle du Swat, est un céleste royaume de montagnes, de cascades et de lacs cristallins. Bienvenue au paradis, annonce un panneau quand on arrive dans la vallée. Autrefois, le Swat s'appelait Udiyana, c'est-à-dire jardin. Nous avons des champs de fleurs sauvages, des mines d'émeraudes et des rivières gorgées de truites. La région est surnommée la Suisse de l'Orient. On y trouve la première station de ski du Pakistan. Les riches Pakistanais viennent en vacances savourer chez nous l'air pur, les paysages et nos festivals de musique et de danse soufis. Tout comme nombre d'étrangers que nous appelons Angrezans, c'est-à-dire anglais, quelle que soit leur origine. Même la reine d'Angleterre est venue, et elle a séjourné dans le palais blanc construit par notre roi, le premier wali du Swat, dans le même marbre immaculé que le Taj Mahal. C'est tout dire. Notre histoire est aussi particulière. Aujourd'hui, le Swat fait partie de la province du Khyber Pashtunkhwa, le KPK, comme nous l'appelons, pour simplifier. Mais auparavant, le Swat était séparé du reste du Pakistan. Nous étions autrefois une principauté, comme nos voisins du Chitral ou du Dir. Nos souverains prêtaient allégeance aux Anglais, mais ils gouvernaient leur pays en toute indépendance. Quand les Anglais accordèrent à l'Inde son indépendance en 1947 et la divisèrent, nous rejoignîmes le Pakistan, nouvellement créé, en demeurant autonome. Nous adoptâmes la roupie pakistanaise, mais le gouvernement du Pakistan ne pouvait intervenir qu'en matière de politique étrangère. Le wali administrait la justice, maintenait la paix entre les tribus belliqueuses et collectait l'ouchour, un impôt de 10% du revenu avec lequel il construisait routes et écoles. Nous n'étions qu'à 160 km à vol d'oiseau d'Islamabad. Mais nous aurions pu tout aussi bien nous trouver dans un pays différent. Il fallait au moins 5 heures de route par la passe du Malakand, un vaste cirque montagneux où autrefois nos ancêtres, menés par le mollah Sadullah, surnommé le fakir fou, défirent les troupes anglaises dans les rochers déchiquetés. Parmi eux se trouvait un certain Winston Churchill, qui en tira un livre. L'un des pics continue de porter son nom, même s'il ne fut pas très élogieux à l'égard de notre peuple. Au bout de la passe se trouve un temple à coupole verte où les randonneurs jettent de l'argent en gage de reconnaissance pour l'avoir franchi sans encombre. Personne de ma connaissance n'était allé à Islamabad. Avant que surviennent les problèmes, la plupart des gens, comme ma mère, n'étaient jamais sortis du Swat. Nous habitions à Mingora, la plus grande et véritable ville de la vallée. Autrefois, c'était une simple bourgade, mais beaucoup de gens sont venus s'y installer des villages environnants. Aussi, elle est devenue sale et bondée. On y trouve hôtels, universités, parcours de golf et un célèbre bazar où l'on vend nos broderies traditionnelles, des pierres précieuses et tout ce qu'on peut imaginer. Le fleuve Margazar la traverse en serpentant. Son eau est d'un brun opaque à cause des sacs plastiques et des déchets qui y sont déversés, et non plus limpide comme les rivières des régions montagneuses, ni comme le large Swat à l'extérieur de la ville où les gens allaient pêcher la truite et au bord duquel nous allions les jours de congé. Notre maison était dans le quartier de Gulkada, ce qui signifie « lieu fleuri », mais qui s'appelait naguère Boudkara, ou le lieu des statues. Près de notre maison s'étendait un champ semé de ruines mystérieuses, statues de lions accroupis, colonnes brisées, sculptures sans tête, et plus étrange que tout, des centaines d'ombrelles en pierre. Nous sommes musulmans depuis le XIe siècle, époque à laquelle le sultan Mahmoud de Ghazni vint en Afghanistan et régna sur nous. Mais dans l'Antiquité, le Swat était un royaume bouddhiste. Les bouddhistes y étaient arrivés au IIe siècle et leurs souverains régnèrent sur la vallée pendant plus de 500 ans. Selon les explorateurs chinois, il y avait 1400 monastères bouddhistes sur les rives du Swat. La mélodie enchantée des cloches des temples résonnait dans la vallée. Les temples ont disparu depuis bien longtemps. Mais presque partout, où que vous alliez dans le Swat, parmi les primes verts et autres fleurs sauvages, vous en trouverez des vestiges. Nous adorions jouer à cache-cache dans les ruines de Boudkara, où les rois et saints bouddhistes sont ensevelis. Il nous arrivait même de pique-niquer devant la statue d'un gros Bouddha, souriant, assis en tailleur sur une fleur de lotus. Selon bien des légendes, le Bouddha lui-même venait souvent ici parce que c'était un endroit très paisible, et un peu de ses cendres auraient été enterrées dans la vallée, dans un stupa géant. Boudkara est un lieu magique, idéal pour les parties de cache-cache. Un archéologue étranger de passage nous a dit qu'autrefois c'était un lieu de pèlerinage, plein de temples splendides à coupoles dorées. Mon père a écrit un poème, « Les reliques de Boudkara », qui résume à la perfection la coexistence possible entre le temple et la mosquée. « Quand la voix de la vérité s'élève des minarets, le Bouddha sourit, et la chaîne brisée de l'histoire est reconstituée. » Nous habitions à l'ombre de l'Hindou Kush. Notre maison à un étage était en béton. À gauche, un escalier menait à un toit en terrasse, assez vaste pour que nous puissions y jouer au cricket, étant enfants. C'était notre terrain de jeu. Au crépuscule, mon père et ses amis montaient s'y asseoir pour prendre le thé. Parfois, je m'installais sur le toit pour regarder les fumées qui s'échappaient des cuisines voisines et écouter le chant des grillons. Tout autour de nous s'élevaient les montagnes où l'on chassait le bouquetin et le coq de bruyère. Notre vallée regorge d'arbres fruitiers comme le figuier, le grenadier, le pêcher. Et dans notre jardin poussaient raisins, goyaves et kakis. Devant la maison se trouvait un prunier qui donnait des fruits tout à fait délicieux. Entre les oiseaux et nous, c'était toujours à celui qui irait le premier pour les manger. Les oiseaux adoraient cet arbre, même l'épivère y venait. Aussi loin que remontent mes souvenirs, ma mère parlait aux oiseaux. Derrière la maison se dressait une véranda où les femmes se réunissaient. Comme nous savions ce qu'était la faim, ma mère préparait toujours plus de nourriture qu'il n'en fallait et la distribuait aux pauvres. S'il y avait des restes, ils étaient pour les oiseaux. En pachto, nous aimons chanter des tapas, des poèmes de deux vers. Et tout en éparpillant le riz, elle chantonnait celui-ci. « Ne tue pas les colombes dans le jardin. Si tu en tues une, les autres ne viendront plus. » J'aimais m'asseoir sur le toit et rêvasser en contemplant les montagnes. La plus haute de toutes est le mont Ilam, en forme de pyramide. C'est une montagne sacrée pour nous. Elle est si haute qu'elle porte presque toujours un collier de nuages cotonneux. Même en été, elle est couronnée de neige. À l'école, nous avons appris qu'en 327 avant Jésus-Christ, avant même que les bouddhistes arrivent dans le Swat, Alexandre le Grand, alors en chemin entre l'Afghanistan et l'Indus, avait envahi la vallée avec des milliers d'éléphants et de soldats. Les Swatis s'étaient enfuis dans la montagne, convaincus qu'elle était si haute que leur dieu les y protégerait. Mais Alexandre était un chef patient et déterminé. Il se contenta de construire une rampe depuis laquelle ses catapultes et flèches pouvaient atteindre le sommet de la montagne. Après quoi, il la gravit afin de s'emparer du Jupiter au sommet de la montagne, symbole du pouvoir. Depuis le toit, je regardais les montagnes changer au gré des saisons. À l'automne, des vents frais descendaient des sommets. En hiver, tout n'était que neige blanche et longues stalactites de glace qui pendaient des toits comme des poignards que nous nous amusions à casser. Nous cavalions partout et nous faisions des bonhommes de neige, des ours de neige et jouions à attraper des flocons. Au printemps, les eucalyptus étaient en fleurs et quand les pétales s'échappaient, ils recouvraient tout de blanc, tandis que le vent portait l'odeur âcre des rizières. Je suis née en été, et c'est peut-être pour ça que c'est ma saison préférée. Même si dans notre ville de Mingora, il est chaud et sec et que le fleuve où sont déversées les ordures empeste. Nous étions très pauvres. Nous habitions dans les deux pièces d'une cabane délabrée, en face de l'école que mon père et son ami avaient fondée. Je dormais dans une pièce avec mes parents et l'autre était réservée aux invités. Nous n'avions ni salle de bain ni cuisine. Ma mère préparait les repas sur un feu à même le sol et faisait sa lessive au robinet de l'école. Notre maison était toujours remplie de monde. Mon frère Kushal est né 2 ans après moi. Comme moi, il a vu le jour à la maison car nous ne pouvions pas nous permettre l'hôpital. Et comme l'école de mon père, il reçut le prénom du héros pachtoun Kushal, Khan Katak. Ma mère, qui espérait un garçon, ne put cacher sa joie à sa naissance. Moi, je le trouvais tout petit et maigre, un roseau que le vent aurait pu briser. Mais pour ma mère, c'était la prunelle de ses yeux, sa ladla. Tous ses désirs étaient des ordres pour elle. Il voulait constamment du thé, notre thé traditionnel avec du lait, du sucre et de la cardamome. Mais elle finit par en avoir assez et lui en prépara un tellement amer qu'il fut dégoûté. Elle rêvait de lui acheter un nouveau berceau. Le mien nous avait été donné par des voisins, mon père n'ayant pas d'argent. Mais il était déjà de 3e ou 4e main. Mon père refusa. Si sa sœur a dormi dans ce berceau, il peut bien dormir dedans aussi. Presque 5 ans plus tard, naquit un autre garçon, Attal, à l'œil vif et curieux comme un écureuil. « Après ça, déclara mon père, nous étions au complet. 3 enfants, c'est peu pour le Swat, où la plupart des familles en comptent 7 ou 8. » Je jouais beaucoup avec Kushal, car il n'avait que 2 ans de moins que moi. Nous ne cessions pas de nous bagarrer. Il allait systématiquement pleurnicher dans les jupes de ma mère, tandis que moi, je me plaignais auprès de mon père. « Qu'y a-t-il, Janie ? » demanda-t-il. « Comme lui, je suis désarticulée, et je peux plier mes doigts, complètement en arrière, sans difficulté. » Ma mère est très belle, et mon père l'adore, comme un vase de porcelaine fragile. Il n'a jamais levé la main sur elle, contrairement à bien des hommes chez nous. Son nom, Thor Pekai, signifie « chevelure de jais, bien que la sienne soit châtain. Mon grand-père, Janser Khan, avait entendu ce nom sur Radio Afghanistan juste avant sa naissance. J'aurais aimé avoir sa peau blanche, ses traits fins et ses yeux verts, mais j'ai hérité du teint mat, du nez épaté et des yeux bruns de mon père. Dans notre culture, nous avons tous des surnoms. Hormis Pichot, qui veut dire chaton, que me donne ma mère depuis ma naissance, certains de mes cousins m'appellent Lachi, c'est-à-dire cardamone. On surnomme souvent les personnes à la peau sombre, blanc, et les petits, grands. Nous avons un sens de l'humour particulier. Dans notre famille, on appelait mon père Kestar Dada, ce qui veut dire beau. Un jour, à 4 ans, j'ai demandé à mon père « Ah bah, tu es de quelle couleur ?»« Je sais pas, » répondit-il, « un peu blanc, un peu noir. »« C'est comme quand on mélange du lait et du thé, » conclus-je. Cela le fit beaucoup rire. Mais enfin, il était très complexé d'avoir la peau mate, qu'il allait au champ se procurer du lait de bufflode et s'en passer sur le visage, pensant que ça lui éclaircirait le teint. C'est seulement quand il fit connaissance de ma mère qu'il se réconcilia avec son physique. Être aimé d'une fille aussi belle lui redonna confiance. Dans notre société, les mariages sont généralement arrangés par les familles. Mais le leur fut une histoire d'amour. Je ne me lassais pas d'entendre le récit de leur rencontre. Ils venaient de villages voisins, dans une vallée lointaine du Shangla, et se croisaient dans la cour quand ma mère et sa famille venaient en visite chez l'oncle de mon père. Ils pouvaient se voir suffisamment pour savoir qu'ils se plaisaient. Mais pour nous, déclarer ce genre de choses, c'est tabou. Aussi lui envoyait-il des poèmes qu'elle ne pouvait pas lire. « J'admirais son esprit, disait-elle. « Et moi, sa beauté, répondait-il en riant. » Ma mère vient d'une famille de femmes fortes et d'hommes influents. Sa grand-mère, mon arrière-grand-mère, devint veuve alors que ses enfants étaient encore petits et que son fils aîné, Janser Khan, était incarcéré en raison d'un conflit tribal avec une autre famille. Mon grand-père n'avait alors que 9 ans. Elle parcourut 60 kilomètres à pied pour supplier un cousin puissant d'œuvrer à sa libération. Je suis persuadée que ma mère en serait capable pour nous aider. Bien qu'elle ne sache ni lire ni écrire, mon père partage tout avec elle, lui raconte ce qui lui est arrivé dans sa journée, le bon comme le mauvais. Elle le taquine beaucoup, lui prodigue des conseils, en particulier en amitié. Et elle ne se trompe jamais. La plupart des hommes pachtounes n'agissent pas ainsi, car on considère que faire part de ses problèmes à son épouse est une preuve de faiblesse.
« Il demande même à sa femme !» entend-on en guise de raillerie.
Je vois mes parents heureux, et ils rient beaucoup. Les gens qui nous regardent trouvent que nous sommes une belle famille. Ma mère est très pieuse et prie 5 fois par jour, mais pas à la mosquée car c'est réservé aux hommes. Elle réprouve la danse car elle estime que cela ne plairait pas à Dieu. Mais elle aime s'embellir avec de jolies choses, des broderies, des colliers, des bracelets en or. Je crois que je dois la décevoir un peu, car comme mon père, je ne me soucie ni des vêtements ni des bijoux. Je m'ennuie quand je vais dans le bazar. Mais j'aime danser chez moi, avec mes camarades de classe. Enfant, nous passions la majeure partie du temps avec ma mère. Mon père était très occupé, pas seulement à son école, mais aussi au sein d'associations littéraires, les RIRGAS, et s'investissait beaucoup dans les questions d'environnement et de préservation de la vallée. Mon père vient d'une famille de notables d'un village arriéré, mais grâce aux études et à sa forte personnalité, il a réussi à nous offrir une belle vie et à se faire un nom. Les gens aimaient l'entendre parler, et j'adorais ces soirées où nous avions des invités. Nous nous installions par terre, autour d'une longue bâche en plastique où ma mère déposait les plats, et nous mangions de la main droite, comme le veut la coutume, en formant des boulettes de riz et de viande. Quand la nuit tombait, nous nous asseyions en chassant les mouches à la lumière des lampes à pétrole qui projetaient nos ombres dansantes sur les murs. L'été, il y avait souvent des éclairs et du tonnerre, et je me réfugiais contre les genoux de mon père. Je l'écoutais, fasciné, raconter les histoires de guerres tribales, de chefs ou de saints hommes pachtounes, souvent par le biais de poèmes qu'il lisait d'une voix mélodieuse, en pleurant parfois. Comme la plupart des habitants du Swat, nous sommes de la tribu Yousafzai. C'est l'une des plus grandes tribus pachtounes, originellement de Kandahar, mais elle s'étend entre le Pakistan et l'Afghanistan. Nos ancêtres se sont installés dans le Swat au XVIe siècle. Ils étaient originaires de Kaboul, où ils avaient aidé un empereur timuride à conquérir son trône. En échange de leur appui, l'empereur leur confia des charges importantes à la cour et dans l'armée. Mais ses amis et parents lui conseillèrent de se méfier de l'ambition des Yousafzai, qui chercheraient à le destituer. Aussi, un soir, il invita tous les chefs à un banquet et ses gardes les assaillirent pendant qu'ils étaient attablés. Environ 600 chefs furent massacrés. 2 seulement en réchappèrent et s'enfuirent à Peshawar avec leur clan. Après un certain temps, ils allèrent à la rencontre des tribus alliées du Swat, les Swatis et les Dalazak, afin d'obtenir leur aide pour retourner en Afghanistan. Mais ils furent si épris de la beauté du Swat qu'ils décidèrent d'y rester et en chassèrent les autres tribus. les Yousafzai divisaient les terres entre les hommes de la tribu. C'était un système particulier, appelé « wesh », selon lequel, tous les 10 ans, toutes les familles changeaient de village, et où les terres du nouveau village étaient réparties entre les hommes de la famille, afin que chacun puisse travailler des terres, tantôt fertiles et tantôt mauvaises, dans l'espoir de préserver l'unité des clans rivaux. Voilà une idée qu'elle est bonne. Les villages étaient dirigés par des khans et les roturiers, artisans et travailleurs étaient leurs locataires qui devaient payer un loyer, une taxe représentant 10% de leur récolte. Ils devaient aussi les aider à former leur milice en fournissant un homme armé pour chaque lopin de terre. Chaque khan avait ainsi des centaines d'hommes armés pour faire la guerre, attaquer et piller les autres villages. Comme les Yousafzai du Swat n'avaient pas de souverain, les querelles étaient sans fin entre eux et au sein de leur famille. Nos hommes ont tous des fusils, et mon arrière-grand-père racontait les batailles qu'il avait connues étant enfant. Au début du siècle dernier, craignant l'arrivée des Anglais qui contrôlaient presque toute la région, et lassés de ces incessantes effusions de sang, ils décidèrent de trouver un homme impartial qui gouvernerait et résoudrait les conflits. Après quelques tentatives infructueuses, en 1917, les chefs choisirent comme souverain un homme nommé Miangoul Abdul Wadud. Bien qu'il fût totalement illettré, Badshah Shaib, comme on l'appelait aussi, parvint à apporter la paix dans la vallée. Prendre son arme à un Pashtoun, c'est comme lui prendre la vie. Il ne pouvait donc pas les désarmer. Il opta pour la construction de forts dans les montagnes du Swat et forma une armée. Il fut reconnu par les Anglais comme chef d'État en 1926 et proclamé Wali, ce qui signifie « souverain » dans notre langue. Il fit installer le premier système téléphonique. Il construisit la première école primaire et mit fin au système du wesh, car à cause des permutations entre les villages, personne ne voyait l'intérêt de construire des maisons durables ou de planter des arbres fruitiers, et nul ne vendait de terrain. En 1949, 2 ans après la création du Pakistan, Badshah Shaib abdiqua en faveur de son fils aîné, Miangoul Abdul Haq Jahanzeb. Mon père le répète, si Badshah Shaib a apporté la paix, son fils a apporté la prospérité. Nous considérons le règne de Jahanzeb comme l'âge d'or de notre histoire. Il avait été scolarisé dans un établissement britannique à Peshawar, et c'est peut-être à cause de son père illettré qu'il se passionna pour l'école, qu'il en construisit beaucoup, ainsi que des routes et des hôpitaux. Dans les années 50, il mit fin au système des tributs versés aux khans. Mais il n'y avait aucune liberté d'expression, et quiconque critiquait le wali était expulsé de la vallée. En 1969, année de la naissance de mon père, le wali renonça au pouvoir.
et nous fûmes rattachés à la province de la frontière du nord-ouest du Pakistan, qui, il y a quelques années, a pris le nom de KPK, Khyber Pashtunkhwa. Je suis donc née en fier enfant du Pakistan, même si, comme tous les Swatis, nous nous considérons d'abord comme des Swatis, puis des Pashtuns, avant de nous dire Pakistanais. Dans notre rue, habitait une fille de mon âge, appelée Safina, et ses deux frères d'un âge proche, Babar et Bazit. Nous jouions tous au cricket dans la rue ou sur les toits, mais je savais que lorsque nous serions plus âgés, nos autres filles devrions rester enfermées. Nous étions censés faire la cuisine et servir nos frères et pères, alors que les garçons pouvaient gambader à leur guise dans la ville. Ma mère ne pouvait pas sortir sans être accompagnée par un homme de la famille, même si c'était un petit garçon de 5 ans. Telle était la tradition. J'avais décidé, à un âge précoce, que je ne voulais pas vivre cette vie. Mon père disait toujours « Elle sera libre comme l'oiseau ». Je rêvais de grimper au sommet du mont Ilam, comme Alexandre le Grand, pour toucher Jupiter et même quitter la vallée. Mais quand je voyais mes frères monter en courant sur le toit pour faire des batailles de cerf-volant, je me demandais quelle liberté une fille aurait-elle jamais. Mon père est issu d'une grande famille. Il avait un frère beaucoup plus âgé, Saïd Ramzan, que j'appelle oncle Khan Dada, et 5 sœurs. Leur village de Barkana était très primitif et ils vivaient entassés dans une maison de bois et de torchis qui prenait l'eau dès qu'il pleuvait ou neigeait. Comme dans la plupart des familles, les filles restaient à la maison tandis que les garçons allaient à l'école. Elles attendaient seulement qu'on les marie, disait mon père. L'école n'était pas la seule chose dont furent privées mes tantes. Le matin, si on donnait du lait ou de la crème à mon père, elles avaient du thé sans lait. S'il y avait des œufs, c'était seulement pour les garçons. Quand on tuait un poulet pour le dîner, les filles avaient le cou et les ailes, tandis que le blanc délicat était savouré par mon père, son frère et mon grand-père. Depuis mon plus jeune âge, j'ai senti que j'étais différent de mes sœurs, disait mon père. Il n'y avait pas grand-chose à faire dans le village de mon père. Il était trop étroit pour qu'on y aménage un terrain de cricket, et une seule famille avait la télévision. Le vendredi, les garçons se faufilaient dans la mosquée et regardaient, fascinés, leur père prêcher du haut de sa chaire pendant 1 heure devant les fidèles, guettant le moment où sa voix monterait et ferait presque trembler les solives. Mon grand-père, Baba, comme je l'appelle, avait fait ses études en Inde, où il avait vu de grands orateurs et de grands chefs comme Mohammad Ali Jinnah, Jawaharlal Nehru, le Mahatma Gandhi et Khan Abdul Ghaffar Khan, notre grand dirigeant Pashtun qui lutta pour notre indépendance. Il était présent lors de la libération du joug britannique à minuit le 14 août 1947. Il avait un vieux poste de radio que possède encore mon oncle et sur lequel il adorait écouter les nouvelles. Ses sermons étaient souvent illustrés par des événements du monde ou des faits historiques, autant que des anecdotes du Coran et des hadiths, commentaires du prophète. Il parlait beaucoup politique. Le Swat avait été intégré au Pakistan en 69, année de naissance de mon père. Beaucoup de Swatis en étaient mécontents, se plaignant notamment du système judiciaire pakistanais qu'ils trouvaient bien plus lent et inefficace que leurs coutumes tribales. Mon grand-père enrageait contre le système des classes, le pouvoir persistant des Khans ainsi que le fossé entre les nantis et les pauvres. Thank you. Mon pays n'est pas bien vieux, mais il a déjà essuyé quelques putschs militaires. Quand mon père eut 8 ans, le chef de l'armée, le général Zia ul Haq, un homme effrayant avec de lourds cernes noirs autour des yeux, comme un panda, de grandes dents qui semblaient au garde-à-vous et des cheveux brillantinés. Cet homme s'empara du pouvoir. Bon nombre de portraits de lui circulent encore. Notre premier ministre élu, Zulfikar Ali Bhutto, fut arrêté et traduit en justice pour trahison, puis pendu dans la prison de Rawalpindi. Encore aujourd'hui, on parle du charisme de M. Bhutto, premier dirigeant pakistanais à prendre le parti du peuple, alors qu'il était lui-même un Khan, possédant de vastes plantations de manguiers. Son exécution choqua l'opinion publique et dégrada l'image du Pakistan dans le monde. Les États-Unis nous retirèrent leur aide financière. Afin de s'assurer le soutien populaire, le général Zia lança une campagne d'islamisation pour faire de nous un vrai pays islamique et consacra son armée à la défense de nos frontières géographiques et idéologiques. Il inculqua à la population que son devoir était d'obéir au gouvernement parce qu'il suivait les principes de l'islam. Zia voulait même nous dicter la façon de prier et instaura des salats ou comité de prière, dans chaque district, même dans notre lointain village, et nomma 100 000 inspecteurs des prières. Avant cette époque, les mollahs étaient quasiment des sujets de moquerie. Mon père racontait qu'au mariage, il se contentait de traîner dans les parages et s'en allait de bonne heure. Mais sous Zia, ils devinrent influents et furent convoqués à Islamabad, mon grand-père y compris, pour donner des conseils et des sermons. Sous le régime de Zia, la situation des Pakistanaises devint de plus en plus difficile. Notre fondateur, Jinnah, avait dit « Aucune lutte ne peut aboutir sans que les femmes y participent aux côtés des hommes. Il y a 2 pouvoirs dans le monde, celui de l'épée, l'autre celui de la plume. Il en existe un 3e plus fort encore que les 2 premiers, c'est le pouvoir des femmes. » Mais le général Zia instaura des lois islamiques selon lesquelles le témoignage d'une femme au tribunal valait la moitié de celui d'un homme. Du coup, nos prisons se remplirent de cas analogues à celui d'une fille de 13 ans, violée et tombant enceinte, puis envoyée en prison pour adultère parce qu'elle ne pouvait pas produire 4 hommes pour confirmer ses dires. Une femme ne pouvait pas ouvrir de compte en banque sans la permission d'un homme. Notre pays avait toujours été champion de hockey, mais Zia obligea les joueuses à porter des pantalons amples au lieu de shorts. Pour finir, il interdit aux femmes de pratiquer le moindre sport. Beaucoup de nos madrassas ou écoles religieuses furent ouvertes à cette époque, et dans toutes les écoles, le diniyat, les études religieuses, furent remplacées par l'islamiyat, ou études islamiques que nous connaissons encore aujourd'hui. Nos livres d'histoire furent réécrits pour présenter le Pakistan comme une forteresse de l'islam, pour laisser croire que nous existions bien avant 1947 et pour fustiger les hindous et les juifs. À les lire, on comprenait que nous avions gagné les 3 guerres que nous avions menées et perdues contre notre grand ennemi, l'Inde. Tout changea quand mon père eut 10 ans. Juste après Noël 79, les Russes envahirent l'Afghanistan. Le général Zia donna asile aux réfugiés afghans qui passèrent les frontières par millions. De vastes camps de tentes blanches apparurent dans notre province, principalement autour de Peshawar. Il en reste encore aujourd'hui. Notre service d'espionnage militaire, l'ISI, entreprit un vaste programme de formation des réfugiés afghans recrutés dans les camps comme combattants de la résistance ou Mujahideen. Les Afghans sont des combattants réputés, mais l'ISI les méprisait. Le colonel Imam, l'officier qui en était responsable, se plaignit que tenter d'organiser des Afghans, c'était comme peser des grenouilles. Je ne sais pas si vous avez essayé.
Après l'invasion russe, notre dictateur passa du statut de paria international à celui de grand défenseur de la liberté durant la guerre froide. Nous redevâmes les alliés de l'Amérique puisque la Russie était son grand ennemi et que la CIA avait perdu sa base principale dans la région quelques mois plus tôt à cause de la révolution islamique en Iran et du renversement du Shah. Le Pakistan prit donc sa place. Des milliards de dollars renflouèrent nos caisses en provenance des États-Unis et d'autres pays occidentaux. Des armes nous parvinrent. Aussi, afin d'aider l'ISI à entraîner les Afghans chargés de lutter contre l'armée rouge, le général Zia fut invité à rencontrer le président Ronald Reagan à la Maison-Blanche et le premier ministre britannique, Margaret Thatcher, au 10 Downing Street. L'un et l'autre ne tarirent pas d'éloges sur lui. Bhutto avait noté Zia chef des armées parce qu'il ne le trouvait pas très intelligent et pensait qu'il ne représentait pas de menace. Il l'appelait d'ailleurs son singe. Mais Zia se révéla très retors. Il fit de l'Afghanistan un point de ralliement, non seulement pour l'Occident dans la lutte contre le communisme, mais aussi pour les musulmans du Soudan au Tadjikistan, qui le voyaient comme un pays musulman ami, agressé par les infidèles. Des fonds affluèrent de tout le monde arabe, surtout d'Arabie saoudite, qui versaient des sommes égales à celles envoyées par les États-Unis, ainsi que des combattants volontaires, notamment un milliardaire saoudien du nom d'Oussama Ben Laden, qui apparut à ce moment-là. Donc, nous autres Pashtuns sommes divisés entre le Pakistan et l'Afghanistan et ne reconnaissons pas vraiment la frontière tracée par les Britanniques. Aussi, face à l'invasion soviétique, aussi bien pour des raisons nationalistes que religieuses, notre sang ne fit qu'un tour. Les imams en parlaient dans leurs prêches, condamnant les soviétiques infidèles et exhortant le peuple à se soulever en bon musulman. C'était à croire que sous le régime de Zia, le djihad était devenu le sixième pilier de notre religion, venant s'ajouter aux cinq autres, la foi en un seul Dieu, le namaz ou prière cinq fois par jour, le zakat ou aumône, la rosa, le jeûne depuis l'aube jusqu'au coucher du soleil pendant le ramadan, et le hajj, le pèlerinage à la Mecque que tout musulman valide se doit d'accomplir une fois dans sa vie. D'après mon père, l'appel au djihad dans notre région du monde fut largement orchestré par la CIA. Dans les camps de réfugiés afghans, par exemple, on fournit aux écoliers des manuels rédigés par des universitaires américains qui illustrait les mathématiques avec des images d'armes et donnait des exemples comme ceci. Si sur 10 Russes infidèles, 5 sont tués par un musulman, il en restera 5. Ou encore, 15 balles moins 10 balles égale 5 balles. Certains garçons originaires du village de mon père allèrent se battre en Afghanistan. Mon père se rappelle qu'un jour, un Maulana, un érudit musulman appelé Soufi Mohammad, arriva au village et demanda aux jeunes hommes de l'accompagner dans sa lutte contre les Russes au nom de l'islam. Beaucoup le suivirent, bon nombre d'entre eux seulement armés de haches et de bazookas. Nul ne se serait douté que des années plus tard, ce Maulana allait créer les talibans du SWAT. À l'époque de la visite de Soufi Mohammad, mon père avait 12 ans. Il était donc trop jeune pour se battre. Mais les Russes s'embourbèrent en Afghanistan pendant 10 ans, durant la majeure partie des années 80. Et devenu adolescent, mon père songea lui aussi à devenir djihadiste.
bien qu'il ne soit pas très assidu à la prière aujourd'hui. À l'époque, il quittait la maison à l'aube chaque jour pour rejoindre la mosquée d'un autre village et étudier le Coran avec un taliban. Terme qui désigne à l'origine tout simplement un étudiant en théologie. Ensemble, ils étudièrent la totalité des 114 sourates du Coran. Le taliban parlait du djihad dans des termes si glorieux que mon père en fut captivé. L'étudiant ne cessait de souligner que la vie terrestre était brève et qu'il y avait peu d'espoir pour les jeunes hommes du village. Notre famille possédait peu de terres et mon père ne voulait pas finir par aller travailler dans les mines de charbon au sud comme beaucoup de ses camarades. C'était un travail pénible et dangereux. Des cercueils de victimes des éboulements revenaient chaque année. Le mieux que pouvaient espérer les jeunes villageois, c'était d'aller en Arabie Saoudite ou à Dubaï travailler dans le bâtiment. De ce fait, l'idée d'un paradis doté de 72 vierges devenait attirant. Chaque soir, mon père priait. « Oh Allah, fais qu'il y ait une guerre entre musulmans et infidèles, afin que je puisse mourir pour toi et devenir martyr. » Pendant un temps, son identité musulmane lui parut être ce qui comptait le plus dans sa vie. Il commença à signer du nom de Zihuddin Panchpiri. Les Panchpiri sont les membres d'une secte religieuse. Et à se laisser pousser la barbe. C'était, raconte-t-il, une sorte de lavage de cerveau. Mais d'une telle puissance qu'il pense qu'il aurait pu devenir un terroriste kamikaze si ça avait existé à l'époque. Mais depuis son plus jeune âge, il était un garçon réfléchi et il prenait rarement des choses pour argent comptant. Même si l'enseignement dans les écoles publiques consistait à apprendre par cœur et pour les élèves à ne jamais douter de leur professeur. À l'époque où il priait pour devenir un martyr, il fit la connaissance du frère de ma mère, Faiz Mohammed, et commença à fréquenter sa famille et la oujra de son père. C'étaient des gens très impliqués dans la politique locale, membres de partis nationalistes et opposés à la guerre. Le poète Ramat Shah Sayel, auteur Peshwari de poèmes sur mon prénom, décrivit les événements en Afghanistan comme la guerre entre deux éléphants, les États-Unis et l'URSS, qui n'était pas notre guerre, et déclarait que les Pashtuns, tels des fourmis, risquaient de se faire piétiner. Mon père me récitait souvent ce poème lorsque j'étais petite, mais je ne le comprenais pas. Mon père était particulièrement influencé par Faiz Mohammed et trouvait très sensé, notamment, son désir de mettre fin au système féodal dans notre pays, où les mêmes familles contrôlaient tout depuis des années, pendant que les pauvres étaient de plus en plus démunis. Il se retrouva à déchirer entre les deux extrêmes, laïcité et socialisme d'un côté et islam militant de l'autre. Il finit par se retrouver quelque part. Au milieu. Je ne sais pas si vous avez trouvé le prénom de la jeune fille qui a écrit cette histoire. Je pense que je ne me suis pas coupée, que je n'ai pas révélé le résultat de la devinette. Alors maintenant, je suppose que tout le monde donne sa langue au chat. Il s'agit de Malala. Malala Yousafzai. La jeune fille qui, à 15 ans, s'est opposée aux talibans. Et qui a reçu en réponse une balle dans la tête. Je crois qu'il n'y avait plus qu'une balle dans la tête, on le verra, parce qu'elle raconte l'attentat auquel elle a survécu. Et puis elle raconte aussi beaucoup d'autres histoires dont nous avons eu le récit par les informations politiques, bien sûr. Mais c'est toujours intéressant d'écouter plusieurs sons. Et son récit en particulier du 11 septembre. Voilà, suite au prochain numéro, avec l'histoire du combat de cette très jeune fille, qui a maintenant tout de même 27 ans, hein. C'est pourquoi elle a pu écrire des livres pareils, avec l'aide de journalistes aussi, bien sûr, puisqu'elle a commencé à écrire, elle était... je crois que c'était après l'attentat, quand elle avait donc 15-16 ans. Bon, maintenant, la famille est installée en Angleterre. Mais je ne vais pas vous raconter tout comme ça maintenant. Bon, vous allez attendre 8 jours. Je vous remercie de votre écoute.